Radio Okapi.
Les informations, Babel Pongo Massimango.
Riposte contre Ebola, les États-Unis injectent 2 millions pour freiner l'épidémie en RDC dans la région. Le département d'État américain parle de plus de 162 millions de dollars mobilisés pour cela. Il assure du soutien des centres américains de contrôle des maladies à cette lutte. Salubrité et circulation routière à Kinshasa, le service national à la tête d'une task force chargée de mieux gérer ces deux secteurs où règne pratiquement le chaos dans la capitale. C'est une décision du Conseil des ministres de vendredi. Comme invité, Olive Ambamboula, médecin gynécologue obstétricienne, en marge de la journée internationale de l'hygiène menstruelle le 28 mai, elle appelle les parents à briser le tabou sur la santé sexuelle et reproductive afin de protéger les jeunes enfants. Madame, Monsieur, bonjour. Comme annoncé en titre, face à l'épidémie d'Ebola, les États-Unis passent à l'offensive et renforcent leur soutien à la RDC et à la région. Dans un communiqué publié vendredi, le département d'État américain annonce une riposte rapide et globale menée en coordination avec les centres américains de contrôle des maladies. Plus de 162 millions de dollars ont déjà été mobilisés pour appuyer les efforts sur le terrain. En priorité, le déploiement d'équipements médicaux, le renforcement des capacités de dépistage et le soutien aux structures des prise en charge. Ces nouvelles de Gisèle Cage sont rendues ici par Christian Makasinga.
Le département d'État précise que cette mobilisation permet déjà d'intensifier la riposte, notamment dans les zones les plus touchées comme l'Ituri et le Nord Kivu. Washington insiste sur un objectif clair, contenir Ebola à la source et empêcher toute propagation à l'international. Des tonnes d'équipements, de protection, du matériel médical et des tests de dépistage ont été acheminés tandis que des centres de traitement et des transits sont progressivement mis en place. Toujours selon ces communiqués, des équipes sont déployées pour retrouver les cas contacts, renforcer la surveillance aux frontières et sensibiliser les populations afin de limiter la propagation du virus. Les États-Unis soutiennent également la création des cliniques spécialisées Ebola et le renforcement des capacités diagnostiques afin de détecter rapidement le nouveau cas. Enfin, Washington annonce des mesures sanitaires renforcées pour les voyageurs en provenance des zones touchées, avec un dépistage obligatoire dans des aéroports désignés. Les messages sont clairs, stopper l'épidémie au plus vite pour éviter une crise sanitaire mondiale.
Restons avec vous Christian Makasinga pour parler sécurité. À Kinshasa, la soirée d'hier dimanche a été marquée par des scènes de panique au rond-point UPEN à proximité de l'Université pédagogique nationale dans la commune de Ngalema. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des hommes armés en uniforme circulant à moto auraient braqué un cambiste avant que des échanges de tirs n'éclatent dans le secteur. Pendant plusieurs minutes, détonations, cris et mouvements de foule ont semé la peur parmi les habitants et les commerçants. Christian Makasinga, vous nous faites vivre.
Coup de feu, des habitants ont fuité et des commerces qui ferment précipitamment leurs portes. La scène ressemble à un affrontement armé. Pourtant, selon les témoignages recueillis sur place, tout s'est réparti d'un braquage.
Ces criminels étaient vêtus d'uniformes militaires de FRDC et portaient des armes. Ils ont braqué notre frère devant nous. Voilà pourquoi nous sollicitons l'intervention des autorités compétentes, notamment celle du président de la République.
Selon le même source, un militaire affecté à la sécurité du supermarché Galaxy aurait riposté, donnant lieu à plusieurs échanges de tirs dans la zone. Malgré l'intensité des tirs, aucun mort ni blessé n'aurait été enregistré selon le témoin rencontré sur place. Après plusieurs minutes de tension, le calme est finalement revenu au rond-point UPEN, mais la peur, elle, reste bien présente dans les esprits des habitants qui espèrent de mesures concrètes pour garantir leur sécurité au quotidien.
Et au Nord Kivu, un prêtre du diocèse de Goma et un couple de nouveaux mariés ont été kidnappés samedi dans le parc national de Virunga, juste avant d'arriver à Kiwanja. Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, déplore cet incident. Il assure que tout est mis en œuvre avec l'aide des autorités de fait pour le retrouver au plus vite. Les détails avec Rosalie Savadi.
On en sait un peu plus sur les circonstances du kidnapping de ces samedis dans les parcs nationaux des Virunga. D'après leurs proches, les deux prêtres revenaient des Kanyabayunga où ils étaient partis célébrer le mariage du frère de l'un d'eux. Après le mariage, le nouveau couple devait rentrer vivre à Goma et tous ont pris place à bord du même véhicule que les prêtres. C'est sur la route menant vers Goma, alors qu'ils traversaient les parcs des Virunga, que des hommes armés ont surgi et intercepté leur véhicule. Les assaillants ont alors tout le monde dans les profondeurs du parc. Mais la marche dans les parcs a été pénible. L'un des prêtres, épuisé, n'arrivait plus à suivre le rythme. Les ravisseurs l'ont alors violemment tabassé avant de l'abandonner et de s'enfoncer loin dans la forêt avec les autres otages. Ce prêtre a réussi à rejoindre la route principale où il a enfin été secouru. Monseigneur Willy Ngumbi, évêque du diocèse de Goma, condamne cet incident et demande que les prêtres restés aux mains de ces hommes armés ainsi que les autres personnes soient relâchées sains et saufs. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Le service national placé à la tête d'une task force chargée d'améliorer la salubrité publique et la circulation routière à Kinshasa. Décision prise et annoncée lors de la réunion du Conseil des ministres présidée vendredi par le chef de l'État. À travers cette mesure, le président de la République entend impulser une nouvelle politique d'assainissement de la capitale congolaise tout en s'attaquant aux problèmes récurrents des embouteillages qui paralysent quotidiennement plusieurs artères de la ville. Jean Gando pour les détails.
Cette décision intervient quelques jours après une visite de Félix Tshisekedi sur plusieurs chantiers en pleine réhabilitation à Kinshasa. Au cours de cette descente, le président de la République a constaté l'état d'insalubrité avancé des nombreuses artères et espaces publics de la ville. Parmi les sites visités figurent notamment les abords du grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando. Pourtant, récemment réhabilité et toujours en attente de son inauguration officielle, le site est déjà confronté à des problèmes d'insalubrité qui ternissent l'image de cette infrastructure emblématique de la capitale. Face à ce constat, le chef de l'État a décidé de renforcer le mécanisme d'intervention en confiant au service national la coordination d'une task force dédiée à l'assainissement urbain et à l'amélioration de la mobilité dans la ville. Les embouteillages chroniques, l'occupation anarchique de l'espace public et l'accumulation des déchets figurent parmi les défis majeurs que cette structure devra relever dans les tout prochains mois. À travers cette nouvelle approche, les autorités espèrent restaurer l'image de Kinshasa, améliorer le cadre de vie des habitants et rendre la circulation plus fluide dans une métropole confrontée à une croissance démographique et urbaine soutenue.
Et toujours à Kinshasa, sur l'avenue de la Libération, ex 24 novembre, entre l'arrêt Lando et la prison centrale de Makala, nous sommes dans la Selembao, les travaux de curage des caniveaux inquiètent sérieusement en cause des tas d'immondices abandonnés en pleine chaussée, notamment entre Madimba et Loya. Résultat, circulation réduite, odeur insupportable après la pluie et même des herbes qui commencent à pousser sur ces déchets. Pour les habitants, la situation devient critique, autant pour la sécurité que pour la santé. Reportage Ila Chimbalo.
Sur cette portion de l'avenue de la Libération, difficile de rater les conséquences des travaux de curage. Le long de la route, deux amas de boue et d'immondices extraits des caniveaux occupent encore une bonne partie de la chaussée.
Les caniveaux ont été bouchés, mais les déchets retirés ont été laissés sur place. Aujourd'hui, il devient difficile de circuler normalement sur cette route. Nous sommes obligés de contourner l'obstacle en empruntant l'autre côté, avec tous les risques que cela comporte. À la moindre distraction, on peut facilement tomber dans le caniveau.
À chaque pluie, la situation empire. La zone devient difficile d'accès et les mauvaises odeurs renforcent la peur de maladies.
Cela fait déjà un bon moment que ces immondices sont abandonnés là. Les immondices ont réduit l'espace de la chaussée. Même pour traverser, ça devient compliqué. Et d'ailleurs, nous sommes exposés à plusieurs maladies.
Mais lorsque vous débouchez les caniveaux, c'est maintenant qu'il faut aussi prendre les immondices là, aller jeter quelque part. Quand il nous plaît, on n'arrive même pas à marcher sur cette route de 24. Donc c'est impraticable.
Excédé, le riverain appelle les autorités à réagir rapidement pour évacuer ces déchets. Objectif, retrouver une route praticable et surtout un environnement sain et sécurisé sur cette artère très fréquentée de la capitale.
À Kindoumanima, les travaux de réhabilitation de la place dite Sonaïdro, située au croisement du boulevard Joseph Kabila et l'avenue du 4 janvier, évoluent normalement à la satisfaction des usagers de la route. Repris depuis le 14 octobre dernier, ces travaux sont exécutés par l'OVD, Office de Voirie et Drainage, avec le financement du Trésor public. Après la réouverture du passage sur l'avenue du 4 janvier, il y a quelques mois, une autre bande a été ouverte sur le boulevard Joseph Kabila pour faciliter le passage, ce qui constitue un ouf de soulagement pour la population, par ces passages donnent accès directement à la Banque centrale, l'auditorat, l'OCC, la gare centrale et à l'hôpital général de référence de Kindu. Florence Kiza Alunga nous en dit plus.
Ces travaux sont évalués à plus de 70% d'exécution selon le directeur provincial de l'OVD, Ghislain Mougalou.
Actuellement, je peux vous dire que nous sommes à plus de 70% des réalisations physiques et aussi financières. Bien sûr qu'on a des défis par rapport tout ça au matériel, mais on ne croise pas les bras. Notre souci, c'est remettre la chaussée telle que c'était avant.
Très heureux, les usagers de la route félicitent l'office de voirie et drainage pour le travail abattu.
Vraiment, en tant que chauffeur moto, nous sommes très contents parce qu'on faisait des longues trajectoires. Souvent, on prenait la route qui mène vers la SNCC, soit on contournait vers la Caritas, vous contournez vers la Cadeco, c'était long.
Les responsables de Sonaïdroc ne cachent pas leur joie et promettent de reprendre les activités de cette station-service.
Nous sommes ravis de voir que les travaux évoluent normalement. Ça nous donne l'espoir que dans les tout prochains jours, les activités de la station vont répondre normalement comme c'était avant.
La population attend avec impatience la réhabilitation totale de cette partie de la voirie pour une reprise effective de la circulation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Le réseau des jeunes parlementaires a tenu samedi à Kinshasa sa plénière ordinaire. Au cours de cette rencontre, le bureau du réseau a présenté le bilan des activités réalisées depuis le début de la session parlementaire, notamment l'organisation d'une formation certificative en logistique, ainsi que des actions menées en faveur du suivi des initiatives parlementaires des membres du réseau. La plénière a également permis d'échanger sur les réflexions en cours relatives à l'évolution du cadre constitutionnel en RDC. À cette occasion, Ron Roger Bimola a réaffirmé le soutien du réseau à la vision du chef de l'État qui invite la nation à réfléchir et à qui et qui a le mérite d'ouvrir un débat que beaucoup évitent par calcul, par prudence ou par peur. On écoute à ce sujet Patrick Eshiba, rapporteur du réseau de jeunes parlementaires, dans cet extrait proposé par Jude Mister Bilanda.
Il a été question de rappeler les réalisations durant toute cette session et de rappeler les troupes pour que nous restions mobilisés et que nous puissions accompagner les institutions et par-dessus de tout l'action du chef de l'État. Dans la communication de l'honorable président du réseau des jeunes parlementaires, il a martelé sur cette unité et sur l'action parlementaire des jeunes. Il a été aussi question de faire les suivis des initiatives parlementaires des jeunes et voir leur évolution à la plénière de l'Assemblée nationale. Et tout ceci a été aussi couronné par la mise en place d'une commission des lois, celle qui va accompagner les élus dans la préparation de leurs textes des lois et aussi réfléchir sur des réformes constitutionnelles parce que la jeunesse ne voudrait pas être spectatrice, mais elle veut être actrice dans des dynamiques de la réorganisation de notre État. Une commission a été mise en place pour faire des propositions qui vont défendre cette fois-ci les intérêts des jeunes, non seulement parlementaires, mais extra-parlementaires, dans la nouvelle réécriture en gestation.
Au ministère des Finances, le secteur des jeux d'argent RDC annonce un tournant décisif. Réuni au centre financier de Kinshasa, les opérateurs ont été fixés sur les nouvelles orientations du gouvernement en matière de régulation. L'objectif est de moderniser ce secteur en pleine expansion tout en renforçant son encadrement. Le coordonnateur de la cellule de surveillance des jeux d'argent, Dieudonné Toumba, a plaidé pour une collaboration étroite entre l'État et les opérateurs afin de garantir une concurrence saine et lutter contre la criminalité financière. Parmi les mesures annoncées, la mise en place prochaine d'une plateforme centralisée pour suivre les transactions en temps réel et améliorer les recettes publiques. Un projet de loi est également en cours d'examen pour doter le secteur d'un cadre juridique moderne. Didier Beaubois, chargé du système d'information et du monitoring des opérations de jeu, revient sur l'essentiel de cette réunion au micro de Vanessa Kongolo.
Nous sommes en train de faire l'intégration à une plateforme de monitoring qui va pouvoir monitorer dans le sens de contrôler les opérations, les activités des opérateurs des jeux. Donc ce sont des moyens techniques qui ont été mis en place au niveau de la cellule pour mieux contrôler et surveiller les secteurs des jeux parce qu'il fallait sensibiliser les opérateurs des jeux sur la mise en œuvre des plateformes de monitoring des opérations de jeux de hasard. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui peuvent se poser si les jeux de hasard ne sont pas bien encadrés dans la société. On peut avoir un problème d'endettement, aussi un problème d'addiction. Il y a des personnes qui peuvent ne pas se contrôler et commencer à jouer, au risque même de perdre toutes leurs économies. Il y a également un problème de blanchiment d'argent, parce qu'il y a des personnes qui ont des fonctions importantes dans certaines structures, peuvent également profiter des activités liées au jeu d'argent pour blanchir de l'argent qu'ils auraient détourné ou qu'ils auraient obtenu par des moyens illicites. Il y a également les problèmes de cet intérêt pour les mineurs de jouer également au jeu d'argent, et ce qui n'est pas autorisé.
Actualité internationale.
L'Éthiopie sera aux urnes aujourd'hui pour des élections des membres de la Chambre des représentants, scrutin que selon l'AFP, le parti au pouvoir devrait remporter face à une opposition divisée et affaiblie. Quelques 50 millions de personnes sur une population de 130 millions sont attendues aux urnes. Notez que le système électoral éthiopien permet aux citoyens d'élire leurs représentants qui votent ensuite pour désigner un premier ministre. Les Éthiopiens éliront également les membres de leurs conseils régionaux locaux.
L'invité.
Les parents sont appelés à briser le tabou au sujet de la question relative à la santé sexuelle et reproductive afin de protéger leurs jeunes enfants. Demande formulée par Olive Ambamboula, médecin gynécologue obstétricienne, à l'occasion de la célébration du 28 mai dernier de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle. Pour en parler, Dr Olive Ambamboula est notre invitée à s'entretenir avec Florence Kizalunga.
Docteur Olive Ambamboula, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Santé reproductive, toute une journée dédiée à l'hygiène menstruelle. Les parents aujourd'hui considèrent cela comme un tabou. Comment les enfants doivent faire?
Merci beaucoup. La journée est dédiée mondialement comme étant une journée chargée de l'hygiène menstruelle. Avant c'était un problème tabou, les parents ne pouvaient pas parler de cela. Mais aujourd'hui nous venons briser ce tabou-là. Nous devons donner l'information aux enfants et même à nos mamans qui considérer cela comme étant un tabou. Les enfants doivent être informés. C'est quoi les règles? C'est quoi les menstrues? Ça survient comment? Comment elles doivent se comporter pendant ces moments? Comment elles doivent gérer les déchets post-menstruels? Voilà un peu ce que nous avons voulu faire à ce jour ici.
À l'occasion de cette journée, votre organisation passe dans les écoles et échange avec les enfants des 5e, 6e année primaire. Quel est le message clé que vous donnez aux enfants par rapport à l'hygiène menstruelle?
Nous avons informé ces petites filles que les règles pourront survenir d'un moment à l'autre. Et pendant qu'elles peuvent voir leurs premières règles, qu'elles ne puissent pas paniquer. Parce que c'est un moment de croissance. C'est un moment de transition entre l'enfance et la puberté. Alors, lorsqu'il y a les règles, la femme doit se comporter en adulte. La petite fille doit savoir que ça peut survenir, c'est normal. Et elle doit déjà se préparer avec sa bande hygiénique que nous avons démontré comment elle doit porter cela. Et elle doit aller informer sa mère. Si c'est à l'école ou quelque, je ne sais pas, ou à l'église, nous avons des demandez à ces petites filles, lorsque vous voyez votre amie avec une tache derrière la robe, il faut aller calmement derrière elle et lui dire que non, vous avez taché. Et si quelqu'un a un tricot ou un foulard, peut toujours aider la petite fille à lui donner, à couvrir aussi ce qui est comme tabou, à couvrir cette tache de sang. Et après, elle doit aller à la maison pour s'échanger. Nous avons choisi les élèves de 5e et 6e primaire. Ce sont les élèves qui n'ont jamais vu leurs règles. Mais il y a quelques-unes qui ont déjà vu leurs règles. L'importance était de montrer à celles qui n'ont pas encore vu les règles, c'est quoi les règles et pourquoi avoir les règles, comment se comporter pendant ces moments. Voilà le message clé qu'on a amené. La majorité des petites filles n'avaient pas encore eu l'information en rapport avec les règles. Nous leur avons donné la définition, nous avons donné le déroulement, comment elles doivent se comporter pendant ces moments et surtout elles doivent savoir que pendant que la femme a ses premières règles, ce que nous appelons les ménages, elle est maintenant prédisponible à avoir une grossesse. Voilà le message clé qu'on a amené à ces petites filles.
Quel danger qui guette la jeune fille pendant cette période?
Pendant cette période, c'est l'utérus qui est en communication directe avec les vagins, c'est-à-dire l'extérieur. Il y a risque d'infection. Donc la bande hygiénique ne doit pas être changée une seule fois par jour. La bande hygiénique doit être changée au moins deux ou trois fois. Les liquides, l'eau qu'on utilise doit être propre. Les récipients doivent être aussi propres. Le milieu, c'est-à-dire les installations sanitaires doivent être aussi propres. Donc il y a un risque accru des infections lorsque cela n'est pas pris en compte.
Aujourd'hui, vous briser ces tabous. Alors, quel comportement que doivent prendre les parents qui ont des enfants, des jeunes filles dans leur maison?
Les parents doivent communiquer avec leurs filles. Donc, ils doivent vraiment développer l'amitié avec leurs filles. Lorsque la fille n'a jamais eu ses règles, à l'âge de 8 ans, 9 ans, la maman doit commencer déjà à préparer sa jeune fille en disant que d'ici là, il y aura ça, ça, ça. Le jour que vous voyez ça, vous devez venir. Et que pendant que vous avez commencé à avoir ces règles-là, évitez tel comportement avec les garçons. Donc, il faut vraiment un dialogue. Il faut une une communication entre les parents ainsi que leurs filles.
Pensez-vous que c'est important qu'à l'école, ce genre de notions soient répétées tous les jours?
C'est vraiment très, très important qu'on puisse commencer à faire cette sensibilisation à l'école parce qu'il y a des celles-là qui n'ont jamais vu. Il y a des garçons qui sont aussi leurs collègues. Une fois que la fille voit ses règles, elle ne peut pas paniquer. Et ses collègues doivent déjà être informés que lorsque nous voyons ceci, c'est qu'il y a un problème. Nous devons chercher vite un foulard, nous devons chercher par exemple un habit pour essayer de couvrir notre femme et l'école doit faciliter les retours à la maison de la petite fille pour aller s'échanger.
C'est-à-dire, les règles pour une jeune fille, c'est signe de vie.
Oui, oui, les règles, c'est signe de vie, c'est-à-dire le fonctionnement de l'organisme est normal. Parce que quand il n'y a pas de règles et qu'il n'y a pas de grossesse, par exemple, on peut avoir certaines pathologies qui peuvent empêcher les règles de survenir. Donc, quand les règles sont là, ça prouve d'abord que le fonctionnement de l'organisme se passe très bien. Et ça pousse, la présence des règles signe aussi l'absence d'une grossesse.
Docteur Olive Mbambula, merci.
Merci beaucoup, madame.
Olive Mbambula, gynécologue obstétricienne, merci à vous qui venez de suivre ce journal. Jude Mista Bilanda l'a préparé et Jean-Claude Lokila mis en onde. Bon début de semaine.